Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
Journée de la vie consacrée, Benoît XVI célèbre une messe en la basilique Saint-Pierre et rappelle aux religieux et religieuses que leurs différents charismes sont essentiels pour la vie de l'Église. Nous entendrons le très beau témoignage du père Jean-Marie Cab, prieur des fraternités monastiques de Jérusalem à Rome. Au lendemain du message du pape pour le carême, nous parlerons de la charité et de la nouvelle éthique globale voulue par l'Église. Olivier Bonnel échangera avec Guy Orange, président du CCFD Terre Solidaire. Et puis nous retrouverons ensuite sœur Catherine Aubin et son livre pour Dieu, Une enfance ultramarine de Anne-Sophie Constant. C'est alors le père Pascal Montavi qui nous livrera son commentaire de l'évangile de ce quatrième dimanche ordinaire. Nul n'est prophète en son pays. Ma pensée affectueuse va aux personnes consacrées, puissent-elles suivre le Christ fidèlement dans la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. C'est le tweet envoyé par Benoît XVI ce samedi 2 février, fête de la présentation de l'enfant Jésus au Temple, c'est aussi la journée de la vie consacrée. Le pape en fin d'après-midi a célébré une messe en la basilique Saint-Pierre, entouré de plusieurs milliers de religieux et religieuses. Dans son homélie, Benoît XVI a tenu à souligner qu'avec les multiples charismes de vie contemplative et apostolique, les religieux coopèrent à la vie et à la mission de l'Église dans le monde. Le pape leur a adressé alors trois vœux. Tout d'abord, qu'ils nourrissent leur foi par la prière et le silence de l'adoration pour conserver la flamme des premiers instants de leur vocation. Ensuite, il les a invités à reconnaître le Christ dans les plus faibles. Dans nos sociétés du succès, l'empathie avec ceux qui n'ont pas de voix est un signe évangélique de contradiction, a dit le pape. Enfin, Benoît XVI les a invités à rechercher toujours le visage du Christ dans les petites comme les grandes décisions et de ne pas prêter l'oreille aux faux prophètes qui proclament la fin ou le non-sens de la vie consacrée dans l'Église de nos jours. Et alors qu'en France se termine l'année de promotion de la vie consacrée, je vous propose le témoignage du père Jean-Marie Cab, prieur des fraternités monastiques de Jérusalem à Rome. Il nous parle des signes de la vocation religieuse, de son enracinement spirituel et humain. Il nous parle de cette vie, la sienne, donnée à Dieu.
Il s'agit bien sûr d'une existence unique, d'une rencontre unique. Hein. Mais au fond, la vie religieuse, c'est la vie baptismale, la vie chrétienne, qui essaie d'aller jusqu'au bout, sur des sentiers où le Christ a appelé lui-même ses premiers disciples. Donc au fond, il s'agit d'une parabole de vie chrétienne, d'une manière un peu particulière de vivre le baptême pour donner quelques points de repère aux chrétiens ordinaires, mais qui ne sont pas des chrétiens de seconde zone, bien sûr. La vie religieuse, il faut vouloir suivre Jésus-Christ, il faut l'avoir rencontré, il faut donc qu'il y ait dans la vie des temps plus particuliers où nous aimons nous retrouver avec lui, quelqu'un qui aime la prière, quelqu'un qui aime le cœur à cœur avec le Seigneur. Ce n'est pas réservé aux religieux, mais c'est déjà un beau signe. Et puis sans doute aussi une disponibilité à le faire rentrer concrètement dans toutes les dimensions de son existence, en particulier la dimension affective, puisque la vie religieuse suppose le célibat, ce qui aujourd'hui, notre époque, n'est peut-être pas très facile, ça n'a jamais été, mais notre époque n'idéalise certainement pas ce genre de vie.
Pour vous, où s'enracine votre vie religieuse ?
D'abord, historiquement, dans ce que j'ai reçu, et j'ai eu la grâce de recevoir la foi de mes parents, et puis d'une éducation vraiment qui a baigné dans la prière et la vie chrétienne courante, enfin, mêlée vraiment à la fois aux études, à l'amitié. Je peux vraiment bénir le Seigneur, à mon âge, plus de 60 ans, d'avoir, dans des périodes troublées, trouvé toujours auprès de moi des amis avec qui partager sur l'essentiel et avec qui se retrouver sur l'essentiel. Alors cet enracinement familial, d'éducation, d'amitié, doit évidemment être entretenu. Dans la communauté où nous sommes, nous avons des temps de prière trois fois par jour, nous avons des temps d'adoration silencieuse, et puis il y a bien sûr la vie fraternelle. Tout à l'heure j'insistais sur la prière et sur le don de son affectivité, mais ça n'est jouable que s'il y a des rencontres amicales et fraternelles qui permettent d'épanouir cette affectivité autrement que dans l'exercice génital de la sexualité.
La vie religieuse, à l'instar du mariage, c'est un défi quotidien, c'est un travail de maturation, de fond. Pour vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour rester dans cette vie religieuse ?
Vous avez bien raison de le comparé au mariage. Quelquefois, je dis sous forme de boutade que le mariage est plus difficile que la vie au Carmel, puisque les carmélites sont dans des cellules juxtaposées, et les gens mariés sont dans le même lit pendant des dizaines d'années. Finalement, nous pourrions trouver les mêmes ingrédients pour la fidélité. Je crois qu'il faut vraiment s'ingénier à inventer chaque jour du nouveau. Il y a bien sûr des temps forts, des temps de retraite, des temps de vacances, des temps où peut-être aussi chacun de son côté va trouver un ressourcement d'accord avec l'autre, que ce soit les gens mariés, que ce soit les frères ou sœurs dans une communauté. Ne pas négliger bien sûr la régularité non plus du quotidien, les gestes de tendresse d'un mari vis-à-vis de sa femme et réciproquement, et d'une communauté de gens qui veulent aussi vivre avec le Seigneur. Il faut qu'il y ait avec lui des conversations. Si on ne se parle plus, si on pense que de toute manière on sait ce que l'autre pense, qu'on n'a rien à en attendre et à en découvrir, on n'avancera pas. Donc j'insisterai finalement sur le fait que chaque jour doit être l'aujourd'hui du oui. Il faut être attentif à entendre la source qui continue de couler au fond de nous. Je viens de Lourdes où Bernadette a mis à jour sous la boue une source. Et notre vie, c'est souvent cela. Nous n'y faisons pas attention, mais grain de sable après grain de sable, la source est obturée. Il faut sans cesse, au-delà de toutes les amertumes, les fatigues du quotidien, saisir les occasions de la joie. Il faut être les uns pour les autres des invitations à la joie, en ayant un regard clair et plein d'espérance porté sur chacun.
C'était le père Jean-Marie Cab, des propos recueillis par Manuela Fidji. Le Conseil pontifical Coronum, en charge du domaine de la charité au Vatican, a demandé plus d'engagement des évêques avec les organisations caritatives qui opèrent dans leur diocèse. Cet appel lancé vendredi s'inscrit dans la continuité du motu proprio Intima Ecclesiae Natura sur la charité, publié en novembre dernier. Le cardinal Robert Sarah, président de Coronum, a ainsi estimé que l'engagement des évêques était insuffisant. Il a aussi souhaité que les pasteurs cessent de piloter l'activité caritative de l'Église dans une direction qui ne met pas en relief l'identité chrétienne de la charité. Ils doivent aussi être plus attentifs à la question délicate des rapports entre l'Église et les organisations non catholiques. L'évêque est responsable du choix et de la formation du personnel caritatif. Il doit surveiller les sources de financement des œuvres de charité. Lorsqu'il avait rencontré les membres de Coronum le 19 janvier dernier, au terme de leur assemblée annuelle, le pape avait d'ailleurs invité les acteurs de la charité de l'Église à refuser des financements et des collaborations qui, directement ou indirectement, favorisent des actions ou des projets en contradiction avec l'anthropologie chrétienne. Cette assemblée de Coronum avait pour thème, souvenez-vous, charité, nouvelle éthique et anthropologie chrétienne. En quoi consiste cette nouvelle éthique globale dont parle l'Église? Olivier Bonnel avait posé la question à l'un des membres de Coronum invité à Rome, Guy Orange, président du CCFD Terre Solidaire.
Toute communauté humaine aujourd'hui, en 2013, s'interroge sur son identité parce qu'on vit cette mondialisation qui nous déboussole, parce que toutes les idées sont possibles, parce que toutes les croyances sont proposées. Donc chaque, je dirais, communauté de conviction, de foi, et bien sûr l'Église catholique en est une, ne peut pas ne pas s'interroger sur cette identité. Et l'un des lieux où elle manifeste cette identité, c'est justement le travail social. C'est quoi le travail social? C'est bien sûr d'aider son frère, sa sœur qui est immédiatement à côté de nous, mais c'est aussi de faire un ensemble du monde. Et pour nous, au CCFD Terre Solidaire, ce comité pour le développement, c'est comment le vivre ensemble va se faire entre les différents continents, dans les instances de gouvernance. Donc l'Église a raison de s'interpeller sur les nouvelle manière qu'il nous faut utiliser pour dire cette bonne nouvelle, pour dire notre identité. Mais comme toujours, qui dit identité peut tomber dans l'identitarisme, c'est-à-dire qu'on va se fermer sur nous-mêmes. Et il me semble que ce que j'ai entendu de Jésus, c'est de dire que cette vérité, elle ne se découvre que dans la rencontre de l'autre, y compris de celui qui n'est pas très catholique. Donc l'identité catholique dans ce milieu social, oui, il faut la revisiter, mais il faut la revisiter, je dirais, d'une manière décomplexée, n'ayant pas peur de dire ce que nous pensons de l'être humain, de la famille, de la solidarité, de la doctrine sociale catholique, mais le dire en dialogue avec d'autres.
L'Église n'est ni une ONG, ni une société philanthropique. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord, à condition que ce message ne soit pas lu comme étant un message de mépris par rapport aux ONG ou aux sociétés philanthropiques. L'Église, c'est ce lieu qui va rayonner du message de Jésus-Christ et qui va faire rayonner ce message. Donc en cela, c'est un lieu particulier. Mais dans ce lieu particulier, il y a l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Pourquoi ? Pour que le vivre en homme soit possible. Non pas simplement demain quand je serai mort, mais aujourd'hui dans les difficultés d'aujourd'hui. Donc oui, il n'y a pas pour l'Église à s'aligner, je dirais, sur tel ou tel type d'ONG ou choses comme ça. Ce n'est sûrement pas son destin. Par contre, sa mission, c'est avec ces ONG, avec ces sociétés philanthropiques, de travailler au coude à coude pour un peu plus d'humanité. Et au cœur de cela, parce que les gens l'attendent, et moi je peux le dire comme président du CCFD, dans tous ces groupes avec lesquels nous travaillons et qui ne sont pas des groupes chrétiens, une parole d'espérance est attendue, plus que jamais.
Retrouvons à présent Sœur Catherine Aubin et son livre pour Dieu, Une enfance ultramarine de Anne-Sophie Constant. Un récit, celui d'une enfance, donc dans toutes les Frances d'outre-mer, un récit fragmenté en lieu d'apprentissage qui retrace le parcours de la petite fille d'un médecin militaire dans l'Empire français au fil des mutations de son père, Cayenne, Batouri, Djibouti, Ventiane. Confrontée à la misère du monde, d'hôpital en léproserie, l'auteur Anne-Sophie Constant s'y construit à travers faune et flore, paysages, cultures, rencontres dont elle raconte l'histoire et l'écho en elle. Agrégée de lettres, doctoresse lettres, Anne-Sophie Constant a été maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers. Elle a participé à l'édition des œuvres poétiques complètes de Pierre-Emmanuel à l'âge d'homme. Anne-Sophie Constant se confie à Catherine Aubin.
Anne-Sophie Constant, un livre, une enfance ultramarine et un voyage qui devient notre voyage, qui est une collection de mers, vous le dites vous-même à la page 135, Méditerranée, mer Rouge, mer Égée, mer Ionienne, océan Indien, océan Atlantique, j'évoque les mers où je me suis baignée, je me récite leur nom comme une prière. Vous pouvez nous raconter ?
Écoutez, c'est touchant et ça me touche plutôt que vous évoquiez cette histoire de mer et cette collection de mer, parce que ça renvoie effectivement à tous ces lieux que j'habitais en mon enfance, et en même temps, ça met en lumière quelque chose qui est cette idée d'exil. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me réciter toutes ces mers, tous ces lieux, tous ces paysages, tous ces gens que j'ai rencontrés ? C'est parce que j'ai dû toujours les quitter. Donc ce livre, si vous voulez, c'est une sorte de mémoire, je fais mémoire des situations qui ont compté pour moi, qui m'ont habité, qui ont créé ce paysage intérieur dans lequel je me réfugie. Mais d'une certaine façon, c'est ça, je me réfugie.
Est-ce que finalement, toutes ces rencontres sont votre pays originel ?
Mon pays originel, en fait, n'existe pas. Je suis née en Guyane, j'ai vécu ensuite à Batouri, à Djibouti, à Vientiane, dans tous ces lieux dans lesquels je me suis constituée et qui ont créé un monde qui est le fait de tous ces lieux, un monde qui est magnifique. J'ai été frappée dès ma petite enfance par cette beauté, cette incroyable beauté du monde et par son incroyable souffrance aussi. Mais tous ces lieux-là ont créé un espace intérieur qui est mon pays originel.
Justement, Anne-Sophie Constant, vous évoquez la souffrance, les rencontres. Il y a beauté et souffrance.
Oui, parce qu'en fait, mon père était médecin militaire et qui avait choisi de soigner les populations civiles outre-mer. Et ma petite enfance, enfin mes premiers souvenirs, c'est entre une léproserie et un hôpital. Et quand vous avez 3 ans et que d'un coup vous voyez des gens mutilés, blessés, désespérés, qui frappent à la porte de chez vous, puisqu'on habitait pratiquement dans l'hôpital, et qu'en même temps, parallèlement, vous avez cette enfance de rêve dans un paysage magnifique, on est frappé par cette contradiction, cette immense souffrance du monde dans cette grande beauté. Et je dois dire que ça a marqué toute ma vie, cette sorte de dichotomie qui me révoltait beaucoup quand j'étais petite et qui m'a révoltée très très longtemps, jusqu'à ce que je finisse par accepter que le monde était cela et cela aussi. On vivait en cercle clos, mon père médecin, et j'avais en particulier 2 amis, un grand albinos qui était réfugié là et qui était boiteux, et un nain borgne. Et c'est vrai qu'enfant, j'ai eu beaucoup de mal à admettre que la réalité, la limite, le fait qu'on ne pouvait pas transformer les choses. Et quand vous êtes enfant, moi j'étais très sensible à cette injustice affreuse. Je pensais qu'on pouvait se charger les croix des uns des autres. Et Simon de Cyrène est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup frappée, que j'ai beaucoup aimé quand j'ai découvert le christianisme.
Vous dites que vous avez découvert le christianisme, et ce qui est impressionnant dans votre livre, c'est que vous commencez par découvrir d'abord la mythologie grecque.
Mes parents étaient chrétiens sans doute, mais on n'allait pas spécialement à la messe. Et ce qu'ils m'ont appris, eux, c'est la charité en acte, l'accueil de l'autre et le respect du plus pauvre et du plus petit. Et moi, là où j'ai appris à lire, et c'est dans une mythologie grecque, et j'avoue que ça m'a éclairée sur le monde. Et je n'ai découvert le christianisme que bien plus tard, quand j'avais une dizaine d'années. Et j'ai toujours une première vision grecque du monde et de sa réalité.
Qu'est-ce que vous souhaitez pour vos lecteurs, ceux qui vous lisent ?
J'aimerais que d'abord qu'ils rencontrent ces personnes, et en particulier les plus humbles à lesquels j'ai dédié ce livre à mes parents, bien sûr, qui ont été importants et à la base de toute cette histoire, mais à tous ces gens que j'ai rencontrés, qui m'ont appris quelque chose, que j'ai côtoyé, qui étaient des gens simples, des gens humbles quelquefois, et des gens souffrants aussi. Et c'est vrai que je suis très frappée par cette grande beauté du monde et sa grande souffrance aussi. C'est cette articulation-là que je trouve importante.
Et place à présent au Père Pascal Montavi, il commente pour nous l'évangile de ce dimanche 3 février, quatrième dimanche du temps ordinaire, évangile selon Saint Luc 4, 21-30, « Nul n'est prophète en son pays ».
L'évangile de ce jour reprend et continue l'épisode de dimanche dernier. Jésus est dans la synagogue de Nazareth, il lit le passage d'Isaïe qui parle du Messie d'Israël et affirme que ce Messie attendu, c'est lui. La réaction des habitants de Nazareth et l'attitude qu'elle suscite chez Jésus est riche d'enseignements. Voyons cela plus en détail. Dans un premier temps, tous les auditeurs de Jésus lui rendent témoignage et s'étonnent du message de grâce qui sort de sa bouche. Cet étonnement renvoie à l'émerveillement qui saisit celui qui reconnaît l'œuvre de Dieu. En grec, c'est le même terme, thomazo, qui est utilisé un peu plus loin dans l'Évangile lorsque Jésus libère un enfant jeté à terre par un démon et agité de convulsions. Les gens sont alors étonnés, émerveillés du miracle opéré par Jésus. Dans la synagogue de Nazareth, l'émerveillement est la première réaction des auditeurs de Jésus. Mais très vite, il commence à raisonner. N'est-ce pas là le fils de Joseph ? Ce Jésus, ils le connaissent depuis son enfance. Comment reconnaître dans ce fils du village le Messie ? Cette même difficulté à dépasser les apparences est aussi la nôtre dans l'Eucharistie. Comment reconnaître dans un morceau de pain le corps de Jésus ressuscité ? Pour reconnaître le Christ, il est nécessaire de dépasser les apparences et laisser les yeux de la foi nous dire ce qui est vrai. L'émerveillement du début doit toujours rester dans nos mémoires afin que, lorsque le doute survient, nous restions fidèles à la grâce qui nous a été donnée. Mais les habitants de Nazareth sont sceptiques. Jésus dénonce alors leur attente de signes et de prodiges. Mais le signe le plus grand, Jésus le leur a déjà donné. Il leur a dit « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Jésus est le Messie. » Il est plus facile d'accueillir des guérisons, des exorcismes, qu'une révélation sur Jésus comme Messie d'Israël. De fait, une telle révélation appelle à un changement de vie. C'est Jésus qu'il faut suivre désormais. Là encore, un enseignement important est donné. Savoir passer des signes qui suscitent la foi, comme les miracles et les guérisons, la paix que Dieu donne, à l'acte de foi qui conduit à reconnaître Jésus comme unique sauveur. Ce passage n'est pas toujours facile car il nous fait passer de la position de celui qui reçoit à la position de celui qui s'engage. Tel est le pas que les habitants de Nazareth n'ont pas su faire. Enfin, cette prédication à la synagogue de Nazareth se clôt sur la toute-puissance de Jésus. Il termine son discours par un dicton désormais célèbre « Aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays ». Il appuie ensuite son affirmation par deux exemples de la vie d'Élie et d'Élisée. Tous dans la synagogue deviennent alors furieux et veulent précipiter Jésus dans un escarpement. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, va son chemin. Comment comprendre cela ? Une foule veut se saisir de Jésus, mais Jésus s'en va insaisissable. Jésus est bien le maître. C'est lui qui décide du temps et de l'heure. Sa vie, nul ne la prend, c'est lui qui la donne.
« Ainsi prend fin ce magazine. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur internet www.radiovaticana.va et sur Facebook en cherchant Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, où que vous soyez.